Radio Livre.
Bonsoir à toutes et tous.
Bonsoir tout le monde, merci d'être là.
Bonjour.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Merci d'être venus ce soir.
Malgré la pluie, les vacances, on est vraiment content que vous soyez là.
Radio Livre, retransmission de rencontres avec les auteuristes à la librairie Terra Nova. Radio Livre, le jeudi matin, de 8h à 10h, 92.2 sur Canal Sud.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là encore une fois, aussi nombreuses et nombreux. Ce soir, on accueille Javier Saez, c'est pour la réédition de Enculé, point d'exclamation, deux points, politique anale. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir fait le déplacement. Vous vivez à Madrid, Javier, vous êtes militant PD, auteur, traducteur. Vous aurez l'occasion de parler de toutes vos activités, je pense. Merci beaucoup d'être là ce soir. Pour animer la rencontre, c'est Ruby Faure, merci beaucoup de revenir. Vous étiez venue l'année dernière présenter les anthologies transfemmes. Vous êtes donc éditrice aux éditions Les Grillages. Merci beaucoup. Vous êtes aussi préfacière de ce bouquin. Merci aussi à Mathias Guéret, quelque part dans la salle, d'avoir fait la transmission pour cette rencontre. La rencontre est non seulement amplifiée, mais enregistrée. On fera circuler le micro après. Les rencontres passent ensuite à la radio. Si vous ne voulez pas passer à la radio, vous pouvez ne pas parler dans le micro ou nous le signaler, on le coupera. Merci beaucoup et bonne soirée.
Bonsoir tout le monde, ça fait super plaisir d'avoir plein de gens et j'ai hâte de la discussion. Le format qu'on vous propose, c'est que d'abord pendant 20-30 minutes, je vais faire une sorte d'interview de Javier. Voilà, du coup, on va avoir un petit peu une conversation. Et puis après, l'idée, c'est de pouvoir un peu échanger avec tout le monde. Du coup, juste pour dire un tout petit peu l'histoire de ce livre avant la question, en tout cas de sa traduction française. Et puis, je vais te laisser parler de son histoire d'écriture. Mais moi, je pense que je suis tombé dessus dans la bibliothèque des deux autres personnes qui font partie de la maison d'édition Les Grillages, qui est une maison d'édition indépendante, queer et trans. Juste avant le premier confinement, quelque chose comme ça, et je vois ce livre et je l'emporte avec moi, et ensuite il y a eu ce truc de soudain j'ai eu un peu plus de temps pour lire, et c'est un des trucs qui m'a vraiment sauvé le début de cette période complètement flippante, parce que c'était déjà très très drôle, que c'était très très fin, que c'était aussi des choses qui parlaient de sexualité en termes de pratique et des choses qui articulaient la théorie queer. C'était voilà, un rapport au féminisme aussi qui m'a beaucoup marqué, on en reparlera un peu plus. Mais voilà, du coup, il s'est trouvé qu'à ce moment-là, avec la maison d'édition, qui était une maison qui faisait plutôt de la micro-édition et de l'édition pirate, on s'est dit, on va s'organiser en maison d'édition, obtenir des numéros ISBN, etc., et faire un livre. Voilà. Et donc, c'était notre premier livre. On a toute une équipe qui s'est lancée dans la traduction, donc je ne sais plus combien on était. On était très amatrices à l'époque. Tout le monde traduisait un bout, tout le monde relisait tout. C'était infernal à tout remettre ensemble. Mais c'était aussi un vrai plaisir. Donc voilà, je pense qu'il y avait ce truc-là un peu de très collectif et d'avoir envie que quelque chose existe. Mais on en reparlera un peu plus aussi d'une parole PD, féministe, aussi antiraciste. Enfin, ouais, qui est quelque chose un peu qui... avec de l'humour, avec de la théorie, avec des morceaux d'enquête dedans, enfin, et voilà, que pour moi n'existait pas tellement à ce moment-là en France. Mais la première question que je voulais te poser, c'était un peu de... Parce que ce livre a été écrit du coup il y a plus de 10 ans, dans le contexte de l'État espagnol, et du coup j'avais envie qu'on puisse se remettre un petit peu de qu'est-ce qui, toi et Sergio, qui est aussi le co-auteur du livre, qu'est-ce qui vous a fait dire à un moment donné qu'il faut qu'on écrive sur les politiques anales. Voilà, quel c'était peut-être aussi le besoin d'écrire précisément là-dessus, dans quel contexte politique, pour créer quel type d'effet par rapport aux luttes de ce moment-là, parce que je sais que ton écriture, elle est aussi liée à l'activisme communautaire, de rue, politique, et donc voilà, d'essayer de voir un peu comment ça s'organisait, et peut-être aussi, parce que Sergio Carrascosa, qui est le co-auteur, n'a pas pu venir aujourd'hui, mais peut-être nous dire un tout petit peu aussi comment vous vous êtes, parce que voilà, c'est un livre à plusieurs voix, donc dire aussi un peu comment vous vous êtes amené des choses ensemble là-dessus.
D'accord. Bon, tout d'abord, merci à tous et à toutes pour être ici avec nous. Et remercier la librairie pour nous accueillir. Remercier Ruby pour organiser Mathieu et Mathias la rencontre. Et aussi la belle préface qu'elle a écrite dans le bouquin, dans cette deuxième édition. Et donc voilà, bon, je vais répondre un peu, initier un peu le dialogue avec Ruby. Et bon, le contexte du bouquin, pour moi, c'est intéressant d'expliquer un peu. C'est un peu historique, si vous voulez, parce que Sergio et moi, on faisait partie d'un groupe radical PD militant des années 90 qui s'appelait la Radical Gay, qui avec LSD, lesbienne sans doute, un autre groupe de lesbiennes, on a fait pas mal de choses dans les années 80, beaucoup d'actions directes, activisme radical, etc. Et d'une certaine façon, on a commencé un peu ce qu'on appelle les politiques queer aussi. On faisait un peu la traduction de Monique Wittig, justement, que nous célébrons aujourd'hui, ce nouveau bouquin de Teresa de Lauretti, Judith Butler, mais aussi de ACT UP Paris. On avait des liens avec ACT UP. Donc disons que, pour résumer, à l'époque, il y avait un activisme radical à Madrid, surtout. Mais après, bon, aussi avec un grand ami qui est un peu derrière le bouquin, qui est Paco Vidarte, qui est mort il y a 15 ans de sida. Donc il y avait déjà un peu une espèce d'activisme, ce qu'on appelle après queer, si vous voulez. Mais dans les années 2000, on a commencé en Espagne une espèce de mode queer, un peu, à mon avis, un peu dangereuse. C'est-à-dire que c'est devenu un peu chic, un peu la mode académique, la thèse doctorale. C'est devenu une chose un peu éloignée des luttes politiques que nous avions entamées à l'époque, antiracistes, etc. C'est devenu une chose un peu très, très théorique, très académique, un peu élitiste, si vous voulez. Donc, c'est là où... dans ce contexte un peu queer chic en Espagne, que nous avons décidé de reprendre le discours un peu très politisé avec ces bouquins. C'est-à-dire qu'en 2010-2011, Sergio faisait partie, comme je dis, de ce groupe. Bon, le groupe était déjà fini à la fin des années 90. On a dit pourquoi pas récupérer les discours ou les pratiques un peu politisées, radicales, et même avec un langage beaucoup plus simple. Vous verrez que c'est écrit avec un peu d'humour et d'une façon assez claire. Et on a vu aussi qu'il y avait toujours un discours assez fort contre le sexe anal passif, même dans les milieux gays, mais pas seulement. C'est-à-dire que même, imagine, 2010 et encore, on voyait pas beaucoup de discours contre l'homme pénétré, si vous voulez. Alors on s'est dit, pourquoi pas réfléchir, qu'est-ce qui se passe encore ici, et même dans les milieux gays, même dans les réseaux, et qu'il y a toujours cette espèce d'injurie, il y a beaucoup d'expressions en espagnol, je sais qu'en français aussi, contre l'homme passif, si vous voulez, ou pénétré, c'est-à-dire enculé, que te den por el culo en espagnol. Bueno, il y a plein de mots d'insultes, d'injuries très fortes. Alors on s'est dit, pourquoi pas, on va voir d'où ça vient, qu'est-ce qu'il y a derrière, pourquoi toute cette haine, parce qu'il y a vraiment des discours de haine et même des délits, des crimes de haine, parce qu'il y en a. Des attaques violentes contre les PD, etc. Toujours avec ces discours derrière d'enculé, de merde, etc. Donc on a entamé une recherche sur qu'est-ce qu'il y avait derrière. Mais bon, je m'arrête ici pour l'instant et je continue après avec les questions.
Merci beaucoup. Moi, à titre personnel, je pense que j'ai essayé d'un peu d'en parler dans la préface, mais j'ai l'impression la richesse des politiques queer et des théorisations queer en lien avec les luttes dans l'État espagnol, en tout cas en France, est assez peu connue. Et je pense que c'est un truc aussi de peu de traduction de l'espagnol vers le français. Mais en tout cas, voilà, moi qui pour m'intéresser un peu aussi à l'histoire des luttes, des mobilisations, mais aussi des formes de pensée, l'Espagne qui est pourtant pas très loin, c'est quelque chose qui est très riche aussi sur la question du transféminisme. Il y a eu beaucoup de productions très tôt. Et au niveau des formes aussi d'organisation PD, je me souviens que quand en France, il y a des rassemblements de PD politisés, radicaux, plutôt anarchistes, féministes, c'était dans les week-ends PD. Et à l'époque où ça a commencé, il y avait une grosse inspiration des Encuentros Maricas qui se passaient en Espagne. Et donc aussi, je pense que ça circule en termes de, voilà, d'auto-organisation, mais aussi de théorie et de savoir. Et ça, voilà, ça fait partie des choses que je trouve vraiment... très important qu'on puisse avoir comme transmission. Ma deuxième question, c'est sur l'influence du féminisme dans ton rapport aux politiques théoriques queer et PD, pour penser aussi ta condition de PD, de Marika. Pourquoi il y a besoin du féminisme? Alors peut-être ça paraît évident à plein de gens. Pourquoi, pour penser aussi les politiques anales, il y a besoin du féminisme, il y a besoin des théories lesbiennes, il y a besoin aussi des perspectives trans? Je dis ça parce que moi, dans ma politisation, je pense de lire en fait des théoriciens PD radicaux. Alors on avait un anticapitaliste célèbre, Guy Okengame, mais qui est aussi par bien des égards viriliste, antiféministe et raciste. Enfin bon, voilà, il y a quelque chose de pas pratique avec celui-là. Et puis je pense que ceux qui sont arrivés après aussi à écrire beaucoup dans l'épidémie du VIH-Sida n'étaient pas non plus spécifiquement connectés beaucoup avec les théories féministes et lesbiennes. Je pense à Guillaume Dustan ou à Eric Rémès. Et du coup, voilà, il y a cette espèce de truc qui s'est pas bien fait ou pas bien connecté, en tout cas pas tellement peut-être dans les luttes, mais en tout cas en termes de poser de la pensée intellectuelle qui permette de penser c'est quoi d'être PD dans cette société avec les camarades lesbiennes, avec les outils du féminisme, qu'il me semblait que moi, ouais, que manquait en tout cas, qui manque en France. Et j'ai l'impression, voilà, des espaces comme PD La Revue, à un moment donné, c'était des tentatives un peu de formuler, d'articuler ça. Et chez toi, c'est partout présent, quoi. Monique Wittig, De Loretis, et les camarades Fefavilla, le collectif de lesbiennes. On sent que tout ton travail, toute ta perspective et aussi la pensée de l'analité, elle est traversée par les outils du féminisme et par les alliances et les luttes avec les lesbiennes, aussi avec les politiques trans. J'ai l'impression que aussi ces trucs-là, que de sentir des alliances et des affinités fortes, pas simplement en termes de solidarité, avec des camarades, mais en termes de penser ensemble en fait des réalités qui peuvent être aussi transversales et communes. Et pour moi, c'est quelque chose que je trouve très précieux. Et voilà, je voulais un peu que tu développes un peu ça, et peut-être aussi spécifiquement pour cette question de penser le stigmate qui touche la pénétration dite passive, réceptive, on pourrait revenir dessus.
Oui, c'est une bonne question. Bon, pour moi, on peut expliquer l'approche féministe, le besoin d'une approche féministe ici de deux façons différentes. D'un côté, et comme j'avais dit, mais c'est important, à l'époque, quand on était dans ces groupes radicaux, on travaillait très très ensemble avec les groupes de lesbiennes, de Fefavilla, d'autres personnes de LSD. Donc on a fait beaucoup d'actions sur le sida, par exemple, de campagnes. Parce qu'il y avait justement une invisibilisation des sida au VIH avec les femmes. Et donc elles ont beaucoup travaillé sur les campagnes, dénoncer la réalité qui affecte les femmes séropositives. Donc on avait déjà une alliance politique très forte à l'époque, qui a continué jusqu'à aujourd'hui. Mais après, il y avait une deuxième approche. Qu'est-ce que, quand on a commencé la recherche un peu sur qu'est-ce que c'est cette haine sur l'homme pénétré, etc., on a vu que justement, il y avait déjà beaucoup de réflexions et qui avaient fait les femmes les féministes ou transféministes préalablement. Donc on a dit, mais écoute, on voit qu'il y a déjà des... Parce qu'on a compris que toute cette histoire de l'analité, l'injurie, finalement c'était une espèce de régulation du genre, de contrôle du genre, ou de, si vous voulez, de biopolitique, on parlera après. Et on a vu justement, j'ai acheté aujourd'hui un autre bouquin de Teresa de Lauretis, c'est cette philosophe lesbienne féministe, pour moi, une des plus importantes de l'histoire, qui a conçu aussi le concept de technologie du genre. C'est-à-dire que le genre serait pour elle une espèce de production, pas seulement par les discours de la sexualité, mais par d'autres dispositifs culturels ou intellectuels, comme vous imaginez le cinéma, la littérature, la médecine, le lieu de rencontre, la vie quotidienne. Donc on a vu que finalement toute cette histoire de l'injurie anale, si vous voulez, c'était une espèce aussi de technologie du genre qui décide qu'un corps pénétré est assimilé à une femme, c'est-à-dire que c'est une chose inférieure dans un contexte patriarcal, non ? Et c'est pour ça que l'homme pénétré a été assimilé à une espèce de trahison masculine. Et c'est là où commence l'injurie. Alors, évidemment, l'approche féministe était clé pour comprendre justement qu'à partir du moment où tu es assimilé à une femme, même le mot marica en espagnol, PD, ça vient de la personne qui s'habille comme Maria, comme la Vierge Maria ou une femme, non ? C'est-à-dire qu'il y avait déjà une tradition chez nous, je ne sais pas si ça passe ailleurs, entre les PD assimilés à la femme, et justement, comme il y a un machisme historique et partout, ça expliquait un peu que finalement, le corps pénétré est encore assimilé à la femme. Et justement, aussi, on a compris le contraire, le corps qui n'est pas pénétrable, c'est un corps masculin, même si au niveau génital, c'est une femme. C'est une chose qu'avait exploré aussi Jack Halberstam dans son bouquin Female Masculinity. Et c'est un livre très intéressant parce qu'il explique que, par exemple, la lesbienne Butch, Stone Butch, la lesbienne qui n'aime pas la pénétration, est automatiquement assimilée à un homme. Mais justement parce qu'elle refuse la pénétration. Ou n'importe quelle femme qui n'aime pas ça, imagine une sœur ou bon, des femmes qui n'aiment pas ça, le fait de ne pas être pénétrable ou pénétré, ça devient un homme au niveau imaginaire. Alors on a vu que c'est tous ces systèmes qu'on a vu à la fin du bouquin, c'était une espèce de technologie du genre, pour une espèce de production du genre nouvelle, pas plus connecté aux organes sexuels, mais à la position de pénétrer ou pas pénétrer. Un peu ça. Donc, bon, pour finir, évidemment, dans tous ces glissements de genre et ces technologies du genre qu'avait développé Teresa de Lauretis, et pas seulement elle, l'approche féministe, c'est plus la clé qui nous a permis de comprendre tous les systèmes.
Merci beaucoup. J'avais pris une question après, mais j'ai envie de creuser un petit peu celle-là, parce que je trouve vraiment passionnant cette idée aussi de la production du genre par les pratiques sexuelles ou par la sexualité, par l'érotisation du corps et par les types de plaisir et comment des types de plaisir ou des types de jouissance ou des types de sexualité produisent des manières des formes de genre. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a tout un moment aussi dans le livre de si on réimagine le corps sexuel à partir de l'anus, en sortant de la génitalité et du coup de ce truc de binarité pénis-vagin, mais en fait, si on fait l'anus, le corps sexuel en tant qu'anus, ça redistribue en fait aussi un peu les cartes du genre, puisque voilà, c'est aussi un truc que vous reprenez avec Preciado, que tout le monde a un anus et tout le monde peut aussi pénétrer un anus. Enfin voilà, et du coup, il y a un truc qui se réorganise aussi de comment est-ce qu'on pense la binarité du genre à partir de l'anus, pénétrer, pas pénétrer, enfin, que je trouvais intéressant. Et ça me fait penser aussi un peu avec la question du corps orifice. Alors c'est quelque chose, j'ai l'impression que... Mais il y a tout un travail autour de dire que les corps sont poreux, sont troués, de sortir de cette idée que c'est quoi la sexualité, c'est les organes génitaux, mais qu'en fait, à partir de l'anus, il y a une manière aussi de défaire le corps sexuel, de défaire cette binarité-là.
Oui, ça aussi nous a ouvert une autre ligne de recherche, si vous voulez. C'est-à-dire que quand on dit que l'anus, on ne sait pas très bien si c'est un organe sexuel ou pas. C'est-à-dire qui décide ou comment on décide que ça, c'est un organe sexuel. Et en fait, il y a une partie assez rigolo de Freud qui il a un article sur... sur le sexe anal. En fait, c'est un des premiers, je sais pas comment dire, philosophes ou personnes qui explorent un peu le monde anal. Et il fait une réflexion assez sympa. Il dit, écoutez, d'accord, si on dit que un sexe pervers, c'est un sexe qui n'est pas pour la reproduction, ou qui utilise certaines parties du corps qui ne sont pas pour la reproduction, pourquoi la bouche, qui n'est pas un organe reproducteur, est bien appréciée, embrasser quelqu'un, non, la bouche est bien, il n'y a aucun problème. Et pourtant, l'anus, qui est l'autre partie du même système, c'est le système digestif, et pourquoi ce n'est pas positif, il n'y a pas de célébration de l'anus, non? C'est une réflexion hallucinante pour la faire en 1900, non? Mais il le dit en plus sans critiquer le sexe anal, hein? C'est une appréciation assez sympa. Bon, tout ça pour dire, évidemment, alors on peut se poser la question, qui décide de certaines façons couper le corps pour décider quelles parties sont sexuelles ou pas sexuelles. C'est une réflexion qui avait déjà entamé Lacœur, comment ça, Thomas Lacœur, l'histoire du sexe historiquement. Mais justement, tu as utilisé le mot « réorganise », mais je pensais le mot « organe », justement, non, qui décide ce type de glissement. Et dans le cas du sexe anal, d'abord, c'est vrai que ce n'est pas un bouquin justement sur les PD ou les homosexuels, parce que tout le monde a un anus, ça devient très démocratique. Mais justement, ça pose un problème parce que tout le monde peut avoir un plaisir caché, placardisé. On dit comme ça, placard ? Non. On parlera du placard anal aussi. Et qui n'est pas reconnu, qui c'est un peu honteux, caché, mais même dans les personnes hétérosexuelles. C'est ça qui pose un problème qui va au-delà de cette espèce d'association entre PD et pénétré ou sexe anal. Et en fait, on a fait une recherche, bon, c'est pas une vraie recherche, mais on a utilisé un site internet qui s'appelle BRWWW. Pour faire une petite enquête, parce que là, tu as, imagine, je sais pas, c'est 200 000 personnes, et tu peux trier active, passive, versatile, on dit. Et on a vu justement qu'il n'y avait pas beaucoup de... Il y avait un peu une distribution homogène, il y avait la moitié... C'est passif, la moitié active, bon, en autre partie, les deux. Donc, tu voyais qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas pénétrables ou pénétrés. Et c'est un site plutôt des sources, mais il y a aussi des personnes qui ne sont pas ours. Donc, c'est un échantillon assez grand, tu vois, 200 000 personnes, c'est pas mal. Même s'il y a des biais, bon. Mais bon, tout ça pour dire que ce n'est pas un livre sur qui est... qui assume que la pénétration, c'est un truc de PD, etc. Mais plutôt, comment ça fonctionne au niveau politique pour distribuer les genres, les bons sexes, les mauvais sexes. Il y a aussi, on verra, on a vu des dimensions aussi racistes, des migrations, etc. Mais bon, on laisse peut-être pour un peu plus tard. Voilà.
Ouais, merci. En tout cas, moi, je pense que j'étais sensible et je pense... parce que ça résonnait aussi avec d'autres choses qui m'intéressaient, mais sur la potentialité, en fait, à partir du travail que tu fais sur l'anus, mais aussi cette idée d'invitation à resignifier et réinventer le corps et le corps sexuel. Et je pense que l'anus, il a cette dimension un peu non marquée qui lui donne capacité de le signifier de plein de manières, de lui donner plein de sens, de nom, de plaisir, de pratique, parce qu'il n'est pas hyper déjà hyper marqué, c'est pas hyper... Voilà, il y a ce marquage-là de l'homophobie, mais il y a aussi cette idée que voilà, c'est un endroit qu'on peut inventer, et je pense que c'est aussi un truc qui résonne avec la manière dont, par exemple, les cultures trans ou les pensées trans écrivent sur l'anal, que ça soit dans un sens ou dans l'autre de la transition, mais cette idée un peu que quand tu dois réinventer la signification sexuelle de ton corps, voilà, ça peut aussi passer par l'anus. Je pense à des recherches d'un ami qui travaille sur les cultures transmasculines, PD, et sur voilà, le réinvestissement de la pénétration par l'anus comme un truc d'affirmation d'identité PD, c'est vraiment intéressant. Et je pense aussi à des travaux ou à des écrits, notamment dans la revue PD, sur une camarade transféminine qui parlait de ce truc-là, de son appropriation de la féminité par la réceptivité sexuelle, et notamment le fait d'être pénétrée. Voilà. Et du coup, c'est des histoires qu'on a des fois du mal à raconter parce que c'est associé un truc à voilà, les personnes trans, c'est un problème avec la sexualité. Et de dire que c'est comment par la sexualité aussi, parfois, qu'on s'échappe du genre et qu'on retravaille, reconstruit et réinvente ou refaçonne son genre, je trouvais aussi ça très riche. Et je pense que dans le livre, il y a aussi tout cette insistance sur le poids des violences sur l'anus, mais aussi cette insistance sur une espèce de potentiel libérateur, ou en tout cas de potentiel de transformation qui passe aussi par là, et que je trouvais vraiment intéressant. Alors la troisième question, puis après peut-être on ouvre, parce que ça, je me rends compte que ça fait déjà un moment qu'on parle. C'est sur l'histoire, mais aussi parce qu'il y a la moitié d'un séminaire d'histoire queer qui a rejoint la salle. Donc c'est faire une petite connexion, mais moi c'est un truc voilà, qui m'importe beaucoup, la question de l'archive, la question de l'histoire, la question de garder des traces. Alors il y a une partie un peu évidente de voilà, faire l'histoire de la répression de l'anal et de ses transformations, ça permet déjà de juste sortir d'un truc de ça a toujours été comme ça. Enfin, c'est aussi intéressant, l'invention de cette association entre les gays et l'anus. Bon, ben, peut-être on revient pas là-dessus parce que c'est tout un chapitre de ton livre, mais qui est vraiment très intéressant, de à quel moment c'est devenu similaire ce truc de être PD, aimer l'anal. Enfin, voilà, c'est un truc très récent en fait. Mais l'autre chose que vous faites aussi, c'est de collecter tout un tas de cultures queer, du sexe anal, du goth, du fist, de plein de types de sexualité et de pratiques qui sont, à mon sens, peu archivées. Parce que peut-être aussi dans nos manières de faire l'histoire et les archives, les pratiques sexuelles, c'est assez difficile à garder. Et il y a aussi quelque chose qui s'est passé, qui est effectivement l'épidémie du VIH-Sida qui a juste entraîné la mort de tout un tas de gens qui avaient des savoir-faire en fait du cul et du sexe en général en fait, et des techniques, des objets, des pratiques, que ça c'est quelque chose aussi qui est menacé de disparition quand une communauté est décimée, et puis les communautés queer sont régulièrement historiquement décimées. Donc voilà, ce travail là de l'archive et de l'archive des pratiques sexuelles et des types de plaisirs sexuels des personnes queer, c'est un truc que je trouvais aussi extrêmement riche et stimulant, et peut-être de dire un peu c'est quoi pour toi ce rapport à l'histoire et à l'archive.
Oui, il y a toute une réflexion assez forte sur l'archive, mais bon, dans plusieurs sens. D'un côté, comme tu as déjà mentionné, on écrit beaucoup sur la crise du sida, parce qu'on a vu que justement à partir de la pandémie du sida, il y a eu un investissement discursif, médiatique, politique, dans le sexe anal à nouveau, non? C'est comme une nouvelle vague. D'abord, on construit le corps homosexuel comme le corps du sida. Il y a une espèce d'identification homophobe, évidemment, dans plusieurs pays, que vous connaissez sans doute. Mais aussi très, très ciblé sur, encore une fois, la pénétration anale. Donc, ça va devenir un vecteur de transmission, même physique, ça c'est vrai, mais en même temps des transmissions politiques, si vous voulez. Il y a tout un renouvellement des discours contre le sexe anal lié à la crise du sida. Donc pour nous, ça, c'est une partie importante du livre, tous les développements à partir des années 80, de la pandémie. Et en lien avec ce que tu poses, la question de l'archive, justement, et à l'époque, il y a toute cette espèce de honte liée entre le sexe anal et le sida qui a fait un peu difficile d'archiver tout ce qui s'est passé. Parce que, bon, même si d'un côté, on a entamé beaucoup d'actions, pas seulement en Espagne, évidemment, il y avait ACTA à Paris, ACTA à New York, beaucoup de groupes païens. Mais bon, en même temps, et comme c'était des actions un peu éphémères, on dit comme ça, et il y avait un peu le risque de perdre toute cette culture, tout ce qu'on faisait au niveau de textes, de fanzines, de brochures, de papiers. Enfin, on a publié pas mal de choses, mais en même temps, on a vu que ça disparaissait, qu'il y avait en même temps une espèce de pas par nous, mais au niveau des institutions, au niveau des mairies, au niveau politique, personne ne voulait ramasser ou conserver ou archiver tous ces types de choses. Donc, il y a eu beaucoup de problèmes pour garder tout ça, parce que pour nous, c'était important la mémoire historique de ce qui s'est passé avec toutes les personnes qui sont mortes, mais aussi toute l'homophobie et tout le manque d'action au niveau politique, ce qu'on avait dénoncé. Donc, bon, il y a une espèce de lien entre l'archive et le placard. Et si vous voulez, on parlera après de ça, parce qu'il y a le placard dans le double sens de l'archive, ou de ce qu'on ne peut pas archiver parce qu'on détruit. Mais bon, si, il y a beaucoup de réflexions de ce côté. Et je voulais aussi rappeler cet ami de Paco Vidarte qui avait écrit aussi beaucoup de ça. Non, il y a même une coïncidence assez drôle, parce qu'à l'époque, on faisait cet activisme de la radicale, et Paco avait écrit beaucoup sur les secrets, l'archive. Mais en même temps, il faisait la thèse doctorale sur Jacques Derrida, qui à l'époque était en train d'écrire Mal d'archives. Et par hasard, Paco a fini par être le traducteur officiel de Derrida en Espagne, parce qu'il était très très bon, il était ami à Derrida. Donc du coup, on a se trouvé avec le bouquin Mal d'archives traduit en espagnol par Paco, mais qui en même temps, on travaillait en ce moment sur le problème de l'archive du sida. Donc bon, c'est une coïncidence assez drôle, historique, mais que j'aime beaucoup. Et maintenant, la traduction officielle de Mal d'archives, c'est fait par Paco en Espagne.
Merci. Petit moment pub. Paco Vidarte, du coup, a publié Etica Marica, qui va apparaître aux éditions Les Grillages quand on aura fini de le traduire. Voilà, mais qui est un ouvrage aussi formidable. Je me dis qu'on ouvre peut-être à tout le monde, parce que tout le monde, comme on a dit, tout le monde a un anus, donc vous avez probablement plein de choses à nous en raconter. Voilà, que vous ayez lu le livre ou non, que vous soyez pratiquant ou non.
Bon, si pour continuer un peu, peut-être ça peut vous intéresser. Et justement, au début, on se posait la question, est-ce que cette haine contre le sexe anal a été toujours la même, ou toujours dans tous les pays, dans toutes les époques historiques? On a toujours l'impression que bon, ça a été toujours comme ça. Mais en fait, non. On a vu qu'on a fait beaucoup de recherches sur les textes grecs, romains, Moyen-Âge. Et on a découvert, par exemple, je vous mettrai cet exemple de comment ça change la vision ou le rapport sur l'anal, surtout la pénétration des hommes, qui c'est justement le sujet. Et par exemple, moi, on avait l'idée qu'à l'ancienne Grèce, tout le monde pense que la pénétration anale était très, très bien assimilée ou très bien considérée, qu'il n'y avait aucun problème. Et pourtant, on a vu que non, qu'il y avait certaines règles pour la pénétration anale. C'est-à-dire que la relation entre les hommes, ce n'était pas un problème. Au contraire, c'était un peu le vrai amour. Donc, de ce côté, aucun problème. Mais il y avait une espèce de régulation des classes sociales. C'est-à-dire que l'homme noble ou âgé ne pouvait pas montrer plaisir dans la pénétration, être pénétré. Être pénétré, c'était pour les jeunes et les esclaves. Mais alors, les critères qui régulaient ça, c'était un critère de classe sociale. C'est comme une trahison de classe. Et c'est pour ça que c'était mal vu, très très mal vu, qu'un homme, disons, de riche ou de bonne classe sociale éprouve ou exprime du plaisir dans la pénétration. Et dans le Moyen-Âge, on a vu que ça a changé. Les critères étaient religieux. Ça commence à avoir des discours de la sodomie que vous connaissez sans doute. Il apparaît une nouvelle figure historique qui est le sodomite, qui est basée sur les critères religieux. C'est une personne qui fait une chose empêchée, mais une chose qui fait les non-croyants. C'est un peu je ne sais pas comment dire en français, l'hérétique, oui, ce qui n'est pas chrétien, si vous voulez. Donc là, on commence toute la répression contre les sodomites, que c'est assez terrible. On a assassiné ou brûlé des milliers de personnes partout en Europe. Mais là, les critères de la sodomie, qui c'est la pénétration aussi anale, était religieux. Donc on voit qu'il y a un changement des critères, ce n'est pas un critère de classe sociale. Et le troisième moment, il y en a d'autres, mais bon, je vous montre le troisième qui est important, c'est l'apparition de l'homosexuel comme concept, qui, comme vous savez, c'est à la fin du 19e siècle, comme a expliqué très bien Michel Foucault. C'est une nouvelle figure qui apparaît dans les discours des sciences humaines, de la psychiatrie, la psychologie, même la psychanalyse. Donc il y a tous les discours pathologiques des maladies mentales. Et parmi les maladies mentales, l'homosexuel apparaît comme une espèce de sujet bon, qui est malade déjà. Mais justement, cette conduite de la pénétration est la preuve un peu de cette maladie. Et là, il va avoir toute une recherche assez hallucinante du corps de l'homosexuel, mais de l'anus de l'homosexuel. On va faire des photos, une exploration, toute une recherche pour voir qu'est-ce qui se passe dans cet espace de l'anus. C'est vraiment hallucinant. Et alors, comme vous voyez ici, les critères, c'est la pathologie, c'est la maladie mentale, c'est un critère psychiatrique, si vous voulez. Alors, on voit que comme il y a des glissements dans l'histoire, toujours, évidemment, il y a une pratique mal vue ou négative, etc., mais qui change, même il y a aussi, comme je disais avant, une espèce des fois des critères racistes aussi, parce qu'on voit beaucoup ça, bon, même aujourd'hui, mais dans certaines périodes au Moyen-Âge, la pénétration anale, c'est toujours une chose qu'ils font les autres. C'est, par exemple, les Allemands parlaient que c'est le mal florentin, c'est les gens de Florence qui font ça, pas les Allemands. Pour les Espagnols, c'était les Arabes. Voilà, ça, c'est une chose que font les Arabes. On voit toujours une espèce de confrontation, des visions de l'autre. Mais c'est jamais une pratique de ton pays. C'est toujours. C'est pour ça que je parle d'une vision coloniale ou raciste, non? Parce qu'il y a toujours des critères de l'autre, comme ce qui fait cette chose mauvaise, ou comme disait le président d'Iran. Ici, ça n'existait pas. Il n'y a pas d'homosexuels, par exemple. Mais bon, on voit toujours ce type de choses.
Vous parliez de pénétration. Je pensais aux pratiques anales anulingus. Bon, on peut dire que c'est une pénétration de la langue, mais je ne suis pas sûr que dans l'imaginaire, on le pense comme une pénétration. Et est-ce que vous avez réfléchi entre ces différentes pratiques? Et est-ce que ça avait des conséquences logiques par rapport aux stigmates d'enculés et de voilà. Je suis pas très clair ma question, mais si ça...
si merci. Oui, il y a pas mal de chapitres sur d'autres pratiques, comme elle a signalé justement, qui ont ressignifié la pénétration anale, et par exemple toute la culture sadomasochiste, la culture fiste. Et ça, c'était intéressant justement parce qu'on abandonne d'une certaine façon toute cette obsession génitale, surtout dans les milieux gays, si vous voulez, les milieux gays standards ou majoritaires. Il y en a toujours une phallocratie, si vous voulez, ou une chose centrée sur la bite. Mais pourtant, on voyait des autres cultures qui ont paru dans les années 60, 80, 70, etc., qui ont exploré justement l'anal comme une autre source de plaisir. Et je crois que ça a eu des conséquences assez fortes au niveau de cette division justement binaire, ou même cette division homosexuelle, hétérosexuelle, homme-femme, parce que justement le glissement sur l'anus, ça te permet d'une autre conception tout à fait différente, même par rapport à l'éjaculation, l'orgasme, tous les critères habituels du porno ou de la politique sexuelle étaient vraiment assez déplacés. Donc on utilise pas mal d'exemples dans les bouquins de ce type d'autres cultures ou subcultures qui ont exploré ça, oui.
Juste pour rebondir sur la question de lécher des culs, parce que c'est vrai que les anus, ça, c'est pas simplement des choses à pénétrer. Et je trouve que c'est très intéressant de réfléchir ça aussi à partir du stigmate qui fait du cul, et aussi pour la personne réceptive, quelque chose de honteux, de sale, et du coup ce truc de distanciation, y compris en occupant une position réceptive, mais un truc de pas trop savoir comment en prendre soin, comment donner de l'attention, comment donner de la tendresse, comment la pratique du lavement. Enfin, en fait, c'est des choses qu'on n'apprend pas dans les cours d'éducation sexuelle et que du coup on se transmet dans des communautés ou avec des partenaires, etc. Mais c'est vraiment aussi intéressant que le fait que cet endroit soit complètement tabou, soit jamais mentionné comme un lieu possible de plaisir et de sexualité, entraîne aussi parce que après j'ai peut-être une vision romantique de lécher des culs comme un truc tendre, mais je pense aussi au poème de Justin Sheen qui s'appelle Kiss My Ass. C'est un poète asio-américain qui a un très très beau poème qui s'appelle du coup Embrasse mon cul, qui est vraiment très beau et qui parle de cette tendresse sur un lieu qui peut être un lieu de violence, de blessure et de vulnérabilité, et du coup lui donner de la tendresse. Du coup je pensais à cette chose là et de comment le tabou aussi crée une sorte de mise à distance, et de comment, parce que c'est un lieu fragile aussi, les questions de la contamination du VIH aussi est liée à une fragilité des membranes de l'anus. Enfin, en fait, toute cette idée de c'est un endroit qui peut donner plein de plaisir, mais qui peut aussi être fragile, qui peut aussi être plein de tensions, de complexes, de rigidité liée aussi à des traumas. Ce truc de comment on en prend soin, comment on lui donne de l'attention, je pense que c'est aussi des choses très, 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 très intéressantes, au-delà d'effectivement de tout ce qui permet de reconfigurer en termes de dégénitaliser, etc. Mais ça m'a intéressé cette question. Et on en parlait avec les sœurs de la perpétuelle indulgence, avec qui on a présenté le livre à Lyon il y a quelques temps, et elles disaient que dans la prévention, du VIH, c'était très important de pouvoir parler avec les gens de l'usage qu'ils font de leur cul en détail, en précision, parce que ça avait un impact énorme sur les risques de contamination notamment. Et que,
Alors, pendant que vous parliez tout ça, de votre discussion, j'ai pensé à un article de la revue, du numéro 2 de la revue Trou Noir, de l'article de Cille Sermolpois, qui justement parle du fait de s'enculer sans se laver, et à quel point alors lui il est PD, donc il va parler vraiment dans une position d'homme PD, et d'à quel point il y a ce truc hyper hygiénique de par le tabou de la pénétration anale, de ce truc hyper hygiénique et tout ça. Et du coup, j'ai pas encore lu le livre, mais du coup, je me demandais si c'était quelque chose qui était évoqué de par le tabou des jugements qui peuvent opérer par des personnes qui ne pratiquent pas ou qui pratiquent aussi l'anal. Il faut pas que ce soit sale, faut pas qu'il y ait de la merde, faut pas qu'il y ait quelconque fluide. Je trouve ça intéressant, et ça me faisait penser à l'article de Cille Sermolpois dans Trou Noir numéro 2, qui est génial d'ailleurs.
Oui, il y a dans le livre une réflexion assez intéressante qui est, c'est vrai qu'il y a un discours lié contre l'anal, de dire c'est sale, etc. Mais après, on a vu, vous le savez, par exemple, tous les pornos hétéros utilisent le sexe anal tout le temps. Et même les personnes hétéros aussi vont très bien de pénétrer une femme analement. Donc du coup, toute cette espèce de critère anal, c'est sale, la merde, etc., disparaît. Que tu vois une contradiction, je dis, écoutez, si tous les 3 millions de films et porno utilisent le sexe anal, tout le monde le voit comme moi, ça n'a aucun problème. Ou même, beaucoup de couples le pratiquent avec la femme surtout. Ou on peut dire, ça c'est notre problème du placard anal. Disons, entre les couples hétéro, l'homme peut dire qu'il a pénétré sa femme de cette façon, mais il ne peut pas dire le contraire. Si la femme lui pénètre avec un gode, etc., ou le doigt, il ne dit pas au travail « Ah, hier, ma femme m'a baisé super bien ». Tu vois, et donc on voyait un peu toutes les contradictions et les incohérences de ces discours, même les discours hygiéniques. Si c'était sale, pourquoi il baisse sa femme comme ça, ou tout le monde regarde le porno? C'est même obligatoire, c'est comme dans les 3 ou 4 possibilités dans tous les films. Donc finalement, les discours, disons, hygiéniques ou anti-hygiéniques, ça n'a aucune cohérence. Donc on a réfléchi un peu de ce côté. Mais justement, comme je disais, comme le corps de la femme est déjà conçu comme pénétrable a priori dans le système patriarcal, personne, là, de ce côté, il y a beaucoup de problèmes. C'est plutôt quand c'est l'homme qui est pénétré, non, ou hétéro, gay, n'importe qui. C'est là où il y a quelque chose qui ne va pas, non. Et c'est là qu'on voulait explorer dans les bouquins.
Est-ce que ce que vous dites, c'est que... je ne sais pas si on m'entend bien. Est-ce que ce que vous dites, c'est que la haine par rapport à la sexualité anale, elle est plus liée au fait d'être dominée, enfin que la personne qui est pénétrée est dominée, que à l'hygiène alors.
Non, pour moi, dans les bouquins, c'est pas l'idée de domination qui est en place. Et parce que nous parlons beaucoup plutôt, le problème c'est quand c'est l'homme qui est pénétré. C'est pas la pénétration anale en général qui est méprisée ou liée à l'injurie. On s'est posé la question, c'est quand c'est l'homme qui est pénétré, quand on commence tous ces discours enculés, en espagnol aussi, en anglais, etc. Donc c'est pas pour nous la domination comme telle, même si on l'utilise des fois comme ça, mais plutôt une espèce de glissement de genre. C'est-à-dire que l'homme pénétré devient ou est assimilé à une femme. C'est là où je trouve que commence l'injurie ou la discrimination, ou la haine, si vous voulez. Et c'est vrai qu'on analyse aussi un peu certains cas dans certaines guerres, la violation anal, c'est fait comme une espèce d'humiliation, domination, etc. Mais nous, pour nous, c'est nous intéresser voir pourquoi c'est spécialement ciblé sur l'homme pénétré. Et c'est là où il y a cette espèce de système de production du genre que nous expliquons à la fin des bouquins. Non, comme je dis, pour moi, c'est pas lié à l'hygiène, c'est plutôt que tu n'es plus un homme. C'est ça le problème. Tu perds la masculinité. D'une certaine façon, finalement, il paraît, on va savoir pourquoi, était dans le fait d'être impénétrable. Lorsque, ce qu'on a vu à la fin, c'est que la masculinité s'était construite, s'était basée sur l'impénétrabilité. Et quand ça se brise, quand finalement tu es pénétré, disons, comme homme, tu perds la masculinité, tu n'es plus un homme. C'est là où commence la haine, l'agressivité, je pense, en fait.
Ouais. J'ai peut-être juste une mini réaction. J'ai l'impression que ça peut des fois s'articuler au sens de le lien de l'humiliation avec c'est pas fait pour ça, c'est sale, et du coup, si tu le fais ou si tu l'acceptes, tu rentres dans un truc qui est direct plus radical ou hardcore, enfin voilà, le truc de classer la pénétration anale comme un truc du sexe plus hard. Et aussi, je pense, dans le fantasme de certains hommes hétéros, que ça va être un truc, une conquête, quoi. Ça va être quelque chose qui va assurer un certain pouvoir. J'ai l'impression que ça, du coup, est le stigmate de salope qui peut aller avec. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un truc dans la culture patriarcale hétérosexuelle, y compris d'humiliation par l'anal, et qui va avec ce truc de gagner quelque chose qui n'est pas censé... j'ai l'impression que ça peut aussi s'articuler avec ce truc d'effectivement l'humiliation qui passe par un rabaissement, un truc qui serait plus sale ou plus hard ou plus... Enfin, voilà, j'ai l'impression que ça joue en tout cas dans la culture hétéropatriarcale aussi, et y compris dans les fantasmes porno. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre d'une humiliation supplémentaire liée au fait que c'est l'anus et pas un autre endroit qui est pénétré.
Non, je voulais simplement prolonger ce que disait Ruby, parce que il m'a semblé que effectivement, c'est vrai que dans la sexualité hétéro, la sodomie est pratiquée, et dans le porno, c'est très voilà, c'est tout à fait présent. Mais en même temps, je pense que il y a quand même une différence entre entre la sexualité vaginale et anale, même dans une relation hétéro pour une femme, et que ça ne met pas les femmes au même endroit. Et donc là, il y a quelque chose peut-être sur lequel on pourrait parler aussi.
Non, c'est une recommandation de lecture. Il y a une chercheuse qui s'appelle Jennifer Nash qui a écrit un article qui Black Analyte, ça s'appelle, je pense, Analyte Noire, dans lequel elle travaille cette question, notamment dans le genre du porno, qui mentionne des femmes noires, avec aussi une esthétique ghetto aux États-Unis. Enfin, voilà, et ce truc d'associer anal avec dégradation, spécifiquement dans le cadre. Enfin, voilà, je pense qu'il y a un travail, ici afroféminisme, mais aussi féministe, sur cette question de forme de dégradation et d'humiliation spécifique des femmes via l'anal, mais je pense à ça.
Non, si, je suis d'accord que ça change. Mais bon, on a vu qu'il n'y avait pas tellement de discours de haine. Si une femme pénétrait analement, bon, c'est évidemment différent, mais je ne vois pas le discours général de l'enculé, etc., ou en espagnol au moins, spécialement ciblé sur les femmes. C'est comme, justement, comme dans ces imaginaires, la femme s'est déjà construite comme pénétrable. Bon, il peut y avoir peut-être des nuances, sans doute, mais je ne vois pas le même discours de ce côté.
Juste pour rebondir, mais je trouve ça intéressant, tu dis comme le féminin étant déjà construit comme pénétrable, ça ne renforce pas la situation d'infériorité politique et sociale qui est en fait déjà là, et du coup il y a quelque chose d'intéressant là-dessus, et ça permet aussi, je pense, de mettre un peu à distance, ce que je trouve le livre ne fait pas, mais des formes de radicalisation, de romantisation, de la subversion, d'être pénétré. Enfin, je pense notamment à Bersani ou chez Okengame, on a ce truc-là aussi de se faire prendre, c'est le summum de la radicalité, et du coup de renverser le stigmate en faisant quelque chose on fait la révolution chaque fois qu'on se fait enculer. Et je pense qu'il y a notamment Sedwick Kosowski ou d'autres féministes qui ont aussi un peu pointé qu'il y a un truc de... Ben ça va chérie, tu vas t'en remettre. C'est vrai que c'est bouleversant pour un ego masculin de lâcher prise et d'être en position réceptive, mais c'est pas le premier à qui ça arrive, et ça n'a pas révolutionné pour l'instant la structure sociale dans d'autres cas. Et je trouvais ça intéressant parce qu'il y a un truc effectivement de romantiser ce truc et d'en faire... Léo Bersani, bon, il écrit dans le contexte du sida, mais il y a vraiment un truc à travers la jouissance anale, on fait exploser le concept de sujet. Enfin, c'est un truc...
Oui, tu as raison. Et en fait, nous avons aussi réfléchi de ce côté dans le bouquin. Le bouquin n'est pas une espèce d'apologie du sexe anal, ça va détruire le système. Notre approche est beaucoup plus modeste. On va voir qu'est-ce qu'il y a derrière la haine, etc. Mais... Il y a même Preciado avait écrit un peu de ce côté, et Okengame, même un site à Gilles Deleuze. Donc il y a tout un délire de le système va craquer, si on se pénètre en allemand. Et non, justement, je voulais dire, il y a une espèce de... Dans ces glissements historiques, même aujourd'hui avec le marché gay, je dis bien gay, des hommes blancs plutôt, il y a toute une culture de la pénétration, tout un marché de porno, des lieux de drague ou de baiser. Et le système, évidemment, n'est pas détruit. Au contraire, ça fait partie du capitalisme de consommation actuel. Et tu as tous les endroits de baise ou de te pénétrer sans problème. Donc notre approche n'est pas de ce côté-là. Nous ne pensons pas qu'il y a... une puissance politique subversive dans le fait même de se faire pénétrer entre hommes ou ailleurs, non.
Et du coup, par rapport à cette haine qu'il y a, comment vous l'analysez par rapport à des gays qui pratiquent, qui sont actifs, par exemple, ou des PD qui sont actifs, comment vous analysez ? Est-ce que vous retrouvez cette haine aussi de leur part par rapport à leur partenaire passif ? Ou est-ce que ça se reconfigure d'une autre façon ? Et comment ?
Bon, je ne crois pas qu'il y a un discours de haine, disons, entre les hommes gays, de l'actif envers le passif. Il y a toujours une espèce de... Bon, c'est des tons un peu, je ne sais pas, ironiques, comme « Ah, le passif, bon... » Il reste un peu, si vous voulez, oui, une espèce de tradition patriarcale, je pense, derrière, comme si tu es plus homme, si tu es actif. Mais justement, ce qui m'intéresse de ta question, c'est ce qui se passe à certains hommes qu'on peut dire qu'ils sont hétérosexuels, je ne sais plus. Mais j'ai vu ça dans plusieurs villes espagnoles, au village, des hommes qui baisent autres hommes, qui sont actifs, mais qui se considèrent hétérosexuels. Alors le fait de pénétrer un homme, ça ne pose aucun problème. Il peut même le dire, ah oui, je baissais tel mec à la plage. Et jamais, même les autres mecs, les autres hétéros, ne considèrent pas que tu deviens PD. Donc c'est une chose assez surprenante. Je ne sais pas si ça passe ici en France ou c'est une chose espagnole ou typique, mais... Disons que le fait d'être actif de ce côté, de pénétrer un homme qui pénètre un autre homme, si tu restes toujours hyper actif, impénétrable, etc., tu peux même soutenir une position hétérosexuelle et il n'y a même pas une haine ou une discrimination de ce côté. C'est assez choquant.
Et alors moi, j'ai envie de parler le revers, de l'autre côté. Qui est qu'à un moment donné, j'avais comme ce projet d'écrire aussi un livre sur l'anal et j'ai eu cette passion pour les comptes Instagram qui parlaient de pegging, du coup de contexte de pénétration dans des couples hétérosexuels où c'est des hommes hétérosexuels qui sont pénétrés. Et il y avait cette angoisse de devenir PD par l'anus. Et donc il y avait tous ces récits de gens qui étaient comme un peu terrifiés d'avoir aimé ça et qui se disaient mais ah là là, si j'ai envie de recommencer, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je deviens, etc. Et vraiment une peur que du coup ça pousse à aller vers des hommes. Enfin, c'était quelque chose de très très ancré. Et je le dis qu'on peut aussi prendre, je pense, au sérieux ces discours, parce qu'en fait c'est une manière aussi dont l'homophobie et le patriarcat structurent la pensée des gens. Et puis ça, du coup, ça crée vraiment quelque chose de... Enfin, il y a toute une série de précautions du coup, il faut que ce soit vraiment une, deux phalanges, pas plus, pas trop souvent, pas trop gros, pas trop fort. Enfin, il faut surtout pas jouir pendant. Enfin, voilà, il faut vraiment qu'ensuite passer en position pénétrante pour jouer. Enfin, et du coup, j'étais comme, waouh, toutes ces manières d'encadrer ce plaisir pour éviter que ça nous rende gays. C'était vraiment fort de voir à quel point ça structure la psyché. Du coup, d'un côté, tu peux baiser d'autres hommes et ça va. Et d'un autre côté, si tu te fais baiser, même si ce n'est pas par un homme, c'est dangereux.
C'est pour ça qu'on parlait finalement d'une technologie de genre. Parce que tu vois que les problèmes, c'est par exemple pour beaucoup d'hommes de ne pas devenir PD, comme tu dis. Il y a toujours une panique anale, mais lié à la possibilité d'être considéré comme PD ou tous les... Il y a pas mal de... Je ne sais pas comment on dit en français, les consultorios estos de radio, les programmes de sexologie à la radio, tu peux appeler il y a un psychologue ou ça. Ah, j'aime me faire baiser, est-ce que je suis PD? Tous les hommes qui appellent. Et voilà, il y a toujours cette... Alors tu vois que finalement, c'est un système de construction de l'hétérosexualité, finalement, qui est en place. C'est plutôt cette haine, tous ces discours, cette espèce de surveillance collective ou micropolitique, dans les termes de Foucault, si vous voulez. Tout ce discours de haine anallophobe, si vous voulez, finalement, arrive à construire un espace hétéro global ou impénétrable global ou des hommes impénétrables. C'est ça qui me paraît intéressant.
Ouais, ça me fait penser n'hésitez pas, mais ça me fait penser à un truc que j'avais envie de dire sur cette question d'impénétrabilité liée à la masculinité, c'est que ça rend indicible tout un pan de la réalité qui sont les violences sexuelles faites aux hommes, et notamment les viols faits aux hommes, qu'ils soient homo ou hétéro ou pas, mais vraiment comme quelque chose qui est indicible, enfin qui est informulable, parce qu'un homme, c'est pas possible de violer un homme. Et du coup, je pense qu'il y a eu, quand il y a eu un peu le MeToo gay, il y a eu un début de formulation de quelque chose, mais c'est vraiment, je pense, quand on a déjà le stigmate de l'homosexualité Peut-être il y a un peu plus d'outils, mais j'ai l'impression que ça joue quelque chose d'encore, enfin de voilà, d'extrêmement violent, que voilà, c'est pas possible de formuler ça. Je pense qu'on en a eu un exemple aussi qui se combinait avec le racisme structurel, mais avec l'affaire de Théo Loubaka, dont le viol par les flics n'a pas été qualifié comme ça par la cour, et Théo dit lui-même que voilà, il traîne en plus de la violence, il y a le stigmate d'avoir été violé en plus par des flics, et ce truc-là de très difficile à articuler, très difficile à dire, puisque voilà, un homme, et qui plus est un homme noir, c'est pas un corps qu'on peut violer. Enfin, c'est pas dans la représentation de victimes de violence. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Je pense qu'on le voit aussi avec le génocide en cours en Palestine, ou y compris dans la politisation féministe des violences sexuelles en Palestine. Il est toujours, c'est toujours les violences sexuelles faites aux femmes ou aux minorités de genre qui sont mises en avant, alors qu'on a constamment des images d'hommes dénudés, mis à quatre pattes, violés, humiliés. Enfin, voilà. Et que c'est aussi quelque chose qui est difficile à nommer ou à dire, en fait. Et que je pense que du coup, c'est cette manière-là dont effectivement l'homophobie ou la stigmatisation de Lana, là, à un moment donné, s'est centrée sur les PD, mais en fait, comment elle impose des choses à la masculinité en général, et en fait, elle rend des pans entiers de l'expérience difficiles à informulables, enfin invisibles, impossibles.
Tiens, tous les deux, c'est hyper joyeux pour moi de pouvoir écouter vos prises de parole et vos réflexions. Notamment, j'avais envie de rebondir un peu sur cette idée de technologie du genre. Pour moi, c'est un peu mind-blowing ce que tu dis, parce que je fais partie d'un collectif de traduction d'archives sur les hommes trans, gays et bi. Et les articles qu'on traduit qui ont le plus de succès, c'est sur l'analité, à chaque fois, sur le sexe anal. Puisque pour beaucoup d'entre nous, c'est une manière d'explorer justement à l'inverse, en fait, une technologie du genre pour nous, pour réinvestir la masculinité d'une autre façon, en fait. Je pense notamment à un article de Santé sexuelle qu'on a traduit sur le fait que sous testostérone, on développe du tissu prostatique. Donc, intéressant quand même. Bref, j'avais juste envie de rebondir là-dessus. Merci pour ça. Et ma question, c'était si le livre est sorti il y a une dizaine d'années, je me demandais si depuis, tu avais eu des réflexions qui s'étaient développées après ça, ou est-ce que tu as eu la publication a pu soulever des questions auprès du public qui ont pu mener à avoir envie de rajouter des choses, voilà.
Ok, oui, merci pour la question et les mots. Et bon, d'abord, c'est une chose intéressante pour nous, c'est que le bouquin a eu beaucoup de succès en Espagne. C'est des choses qu'on n'attendait pas parce que, bon, c'est déjà un essai théorique, bon, on paraît théorique, mais du coup, il y a eu 3 éditions, maintenant 4e, donc... Ça nous posait beaucoup de questions, pourquoi ce grand succès en Espagne. Mais après, il y a une chose intéressante que je ne sais pas si c'est une conséquence du bouquin, mais depuis 2-3 ans, il y a une expression entre les jeunes espagnols qui est hallucinante. C'est pour dire que tu aimes une chose, ils disent por el culo. Ils disent le titre de notre bouquin, c'est por el culo. C'est comme enculé. Et du coup, je ne sais pas pourquoi, depuis 3 ans, c'est une mode dans les jeunes hétéros, quand ils disent une chose que j'aime beaucoup, por el culo, c'est PEC, P-E-C. Ils disent PEC tout le temps. C'est le bouquin de PEC, ce film est PEC, ce repas est PEC. Donc, on ne sait pas si c'est une conséquence. Il y a même à la télé, il y a des articles dans la presse. Mon neveu me l'a dit aussi, qui a 20 ans. Il dit, mais ça vient de ton bouquin. Je dis, je ne sais pas. mais c'est vrai, je ne savais pas. Mais c'est lui qui me l'a dit. Après, j'ai dit oui, il y a plein d'articles. Ça veut dire que, du coup, c'est une chose positive. Pour moi, c'est hallucinant que... Un jeune de 18 ans disait « Ah oui, por el culo, ouais, j'aime bien. » Mais c'est vrai, c'est comme ça. C'est une mode depuis 3 ans, partout, et aucun problème. Donc, pour moi, je ne sais pas si c'est... Je pense que ce n'est pas pour notre bouquin, Mais en tout cas, c'est un changement culturel assez, assez clair. Je fais que cette espèce de, bon, de valeur positive, de dire ah oui, je l'enfonce dans mon cul, oui, oui, c'est un film super. De dire écoute, ça, c'est nouveau. Alors, ça, c'est la seule chose que je peux te dire comme nouveauté culturelle, politique, aux conséquences. Et c'est très, très intéressant. Tu vois, oui.
Justement, alors, en sens inverse, quelles ont été la réception, les réceptions négatives, quelles ont été les critiques par rapport à ce livre? Est-ce qu'elles ont changé ou pas?
Non, non, on n'a pas eu spécialement des critiques. Non, que je sache, aucune. Au contraire, bon, il y a une chose assez sympa, qui, bon, ce n'est pas le cas des bouquins français, qui est une jolie édition, mais l'édition espagnole est un peu plus forte, parce que c'est un cul, c'est moi qui l'avais décidé. J'ai dit, j'ai appelé un photographe que je connais, dit, écoute, je veux un cul poilu, très poilu, pour la couverture. Tu me fais une photo, on verra, blablabla. Bon, le mec a fait la photo. Et je présentais ça aux éditeurs, c'est trois femmes lesbiennes qui ont la maison d'édition. Et elles ont paniqué, elles ont dit non, 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 ça va pas, non, c'est impossible, non, non, parce que c'était toute la couverture en cul avec une main assez jolie à côté. Et je dis, mais écoute, si tu vois ça dans une librairie, tout le monde va y aller le chercher, parce que c'était vraiment, c'est pas les culs des marbres adolescents, non, je voulais pas ça, parce que ça, il y a plein de... Justement, c'était un peu choquant, un cul poilu, si tu voulais, un peu ours ou une chose comme ça, dans un livre qui s'appelle « Enculé », c'était assez choquant, parce que justement, cette histoire de la masculinité... Et bon, finalement, elles sont acceptées, elles l'ont publié comme ça. Et je pense qu'une partie du succès a été à cause de la couverture. Et justement, je fais la preuve, des fois, je suis dans certaines librairies, je suis à son côté, et tu vois, tout le monde, bon, tout le monde, pas mal de gens qui passent, pouf, ils vont directement à ce bouquin, parce que c'est vraiment très, très choquant. Donc, bon, il y a eu ça, si tu veux, à côté des réactions, des choses que j'ai vues qui sont passées. Et voilà. En plus, tout le monde me demandait le numéro du téléphone du mec. Quand je fais la signature, je dis, écoute, je ne sais pas, je ne connais pas. Et un jour, je l'ai connu. J'étais à Canarias, à Maspalomas, un endroit très pédé. Et du coup, un mec m'approche, me dit, ah, toi, Javier Saez? Je dis, oui. Je dis, je suis ton cul. Je dis, comment? Quoi? Je dis, si, si, je suis le modèle de ton ami photographe. Je dis, ah, d'accord. Et après, par hasard, je l'ai connu quelques années plus tard. Et voilà.
Oh, magnifique, ça fait un joli mot de la fin, je pense. Juste peut-être pour dire que Javier vient de sortir un livre pour les personnes qui lisent espagnol qui s'appelle Biopolítica del Armario, Biopolitique du placard. Donc voilà, si vous lisez l'espagnol, jetez-vous dessus. Sinon, peut-être il sera traduit à un moment. Est-ce que tu veux le pitcher?
Oui, c'est un bon moment pour moi. Ça fait 2 ans que je travaille sur ces bouquins. Ça s'appelle. Et bon, l'idée, c'est ça. Je fais une réflexion sur le placard d'un point de vue politique collectif, pas dans le sens individuel, je suis dans le placard, au sortir du placard, mais comment, je l'appelle biopolitique dans le sens de Foucault, tu peux contrôler une grande population. Et le placard, finalement, c'est une espèce de contrôle global d'une grande population qui reste en silence, qui est cachée, qui a peur, qui a des traumatismes, etc. Donc c'est une réflexion politique dans plusieurs sens de comment tu peux contrôler aussi comme une technologie du genre, non, qu'on décide quelle est la bonne sexualité, la sexualité que tu peux montrer. J'ai vu ton t-shirt de la Pluma, par exemple. Et la pluma, je ne sais pas comment on dit en français, le geste féminin de PD. Bon, en espagnol, on dit pluma, que c'est le t-shirt que tu as, que j'adore. Donc, le placard, c'est aussi ça. Tu ne peux pas avoir la pluma, tu ne peux pas avoir de geste féminin, flamboyance. Okay. Bon, alors il y a toute une réflexion dans le livre sur les sur le placard au sens politique et bon, je suis très content de finalement ça a été publié, oui.
Merci beaucoup, Javier Saez, pour ce soir, pour cette présentation. C'était Enculé, politique anale, c'est paru aux éditions Les Grillages, présenté par Ruby Faure, éditrice traductrice.
Pardon, j'ai une dernière question pour toi. Parce que dans le programme de Terra Nova, la com a été faite avec Dans ton cul.
Ouais.
Et alors, c'était le titre que moi, personnellement, je voulais au début pour le livre, mais Javier m'a dit non. Et heureusement, parce qu'après, il y a un livre de Valérie Solanas qui est sorti, traduit ouais. Dans ton cul. Mais voilà, ça m'intéressait de savoir comment Dans ton cul est revenu. Parce que quand j'ai vu la com, j'ai là, wouh! Parce que c'était aussi une idée de stratégie marketing d'avoir un livre qui s'appelle Dans ton cul, que les gens, ça allait les attirer. Oui.
Et je pense que c'est quand on avait parlé l'année dernière.
C'est ça.
Tu avais dû dire que ça allait s'appeler comme ça.
Excellent. Bon. Au moins, c'est resté quelque part.
Merci beaucoup.
Bonsoir à toutes et tous.
Ben bonsoir tout le monde, merci d'être là.
Bonjour. Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Merci d'être venus ce soir.
Malgré la pluie, les vacances, on est vraiment content que vous soyez là.
Radio Livre, retransmission de rencontres avec les auteuristes à la librairie Terra Nova. Radio Livre, le jeudi matin de 8h à 10h. 92.2 sur Canal Sud.